Point Max.
Je voudrais juste revenir sur ce que disait Max tout à l'heure.
Boulevard. 102.1.
10h33 minutes, presque 34 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Excellent mardi, 3 février. On a beaucoup suivi tout au long du mois de décembre la grande saga Pablo Rodriguez, au point où j'appelais affectueusement l'histoire le calendrier de l'Avent Pablo Rodriguez, parce qu'à tous les jours pratiquement du mois de décembre, c'est d'habitude on a notre petit chocolat du calendrier de l'Avent. Là, souvent dans le Journal de Québec, on avait une nouvelle information, une nouvelle bourde, quelque chose associé à Pablo Rodriguez qui inévitablement allait nous mener au gros chocolat du calendrier de l'Avent, qui allait être la démission de Pablo Rodriguez. Chocolat au goût amer pour certains, dont Pablo Rodriguez lui-même, évidemment. Parce que pendant un bout, on se disait, OK, c'est sûr qu'on va arriver là à un moment donné. Je ne sais pas à quel point Pablo Rodriguez lui-même le savait ou il croyait vraiment qu'il avait encore des chances de demeurer chef du parti et d'éventuellement mener les libéraux à une victoire aux élections. On va peut-être aller chercher quelques réponses à nos questions qui restent en suspens, parce que même si on a suivi de près toute l'histoire, on n'en connaît assurément pas tous les détails. Et pour en parler, Guillaume Bourgault-Côté, qui est chef du bureau politique du magazine L'Actualité, est au bout du fil. Guillaume, salut.
Salut Maxime.
Tu présentes aujourd'hui le dossier Pablo Rodriguez, l'ascension et la chute, récit du déraillement spectaculaire de celui qui se dit victime d'un putsch. Au départ, puis la lecture est fascinante, puis je vais inviter tous les auditeurs à la faire, cette lecture-là, dans l'actualité, mais le plan, là, c'était de présenter le portrait d'un aspirant premier ministre du Québec, puis finalement, ça a viré en complètement autre chose.
Oui, le plan a changé complètement, effectivement, parce que, vous savez, ce genre de portrait-là, on prépare ça plusieurs mois d'avance. Fait que moi, quelque part, à la fin de l'été, j'ai commencé à faire des entrevues, ramasser un peu de matériel autour de ça, puis je devais commencer à écrire, à me concentrer à écrire quelque part à la mi-novembre. Alors, vous voyez que c'est arrivé pile au moment, en gros, où la crise a éclaté. Puis là, j'ai quand même continué l'écriture, mais à un moment donné, je me suis dit, ça me prend un plan B et un plan C et un plan D. Alors, et finalement, on a reviré ça pour en faire effectivement le récit de la chute de Pablo Rodriguez. Mais évidemment, si moi, j'ai été surpris de comment les événements ont évolué, lui encore plus, bien évidemment. Puis, la raison de parler de chocolat un peu amer, parce que j'ai pu lui parler à Pablo Rodriguez, faire une entrevue post-démission, donc il y a à peu près 2 semaines, je suis allé chez lui pour faire une nouvelle entrevue. Il est encore vraiment sonné par tout ça, parce que je veux dire, c'est arrivé très vite, et lui trouve que c'est arrivé de façon, il m'a dit quelque chose comme, j'ai jamais vu des événements aussi violents que ça en politique, en 20 ans de politique. Donc, il y a cet effet de surprise là, qui demeure même un mois et demi plus tard.
Comme je disais, on l'a suivi de près tout ce qui se passait pendant des semaines et des semaines. Qu'est-ce qu'on retrouve, Guillaume, dans ton dossier qui ne s'est pas nécessairement retrouvé dans la sphère médiatique jusqu'à maintenant?
Écoute, c'est intéressant de voir un peu à travers le texte comment ça s'est vécu de l'intérieur, parce que c'est un peu par hasard. Hein, moi, à un moment donné, pour ce genre de texte-là, tu prévois que je vais aller sur le terrain assister à tel événement quelques semaines plus tard, puis ça a concordé avec le fait, avec grosso modo le début de la crise. Fait que, tu sais, j'étais, par exemple, dans un cocktail de financement, une activité partisane, la veille du congédiement de Geneviève Hinze par Marois Risky. Ça, c'est vraiment le point de départ de la crise. Et tu de voir à quel point, à l'interne du parti, par exemple, on trouvait que ça allait bien. À ce moment-là, la salle était pleine, le financement allait bien, il y avait quelque chose comme 250 personnes qui voulaient être candidates pour les prochaines élections. Les sondages étaient quand même bons, on était à 5 points du Parti québécois, donc il y avait plusieurs éléments qui donnaient à penser aux libéraux, à Pablo Rodriguez, que ça allait bien, puis qu'on était en bonne posture là dans l'approche des élections. Le lendemain, ça a commencé à déraper et ça n'a pas cessé de déraper. L'entrevue aussi avec Pablo Rodriguez dans les dernières semaines m'a permis de lui demander précisément comment il avait vécu ça, ce qu'il pensait de tout ça. Il y a cette idée qu'il met de l'avant que, pour lui, ça a été un putsch, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, dans le fond, la décision de Marois Risky de congédier Geneviève Haynes, qui était une amie qui est toujours une amie de Pablo Rodriguez, puis qui était surtout la personne de confiance de Pablo Rodriguez à l'intérieur de l'Assemblée nationale, parce que il y a ça qui est particulier dans ce dossier-là. M. Rodriguez, il n'est pas élu. Alors, aux yeux de l'Assemblée nationale, il n'existe pas vraiment. Mmh. Fait que c'est la directrice de cabinet de Mme Risky, qui était donc Geneviève Haynes, qui est un peu le relais de Pablo Rodriguez à l'Assemblée nationale. Fait que quand il a vu M. Rodriguez que Marois Risky congédiait Geneviève Haynes, il s'est dit, ben, attendez, là, je perds mon point d'accès à l'Assemblée nationale. Et lui avait cette impression de devenir un peu un satellite qui tournait, mais qui pouvait pas entrer à l'Assemblée nationale. Donc, cette idée de putsch, c'est la première fois qu'il l'a dit comme ça. Évidemment, c'est son impression. Je sais pas que c'est ça qui s'est passé, mais dans son analyse de tout ce qui s'est passé à compter de novembre et jusqu'à la mi-décembre.
Et Guillaume, quand tu l'as rencontré, tu sais, il dit être encore en paix, serein avec sa décision, dit avoir dû démissionner sur des perceptions. Est-ce que, c'est ça, c'est ce qu'il dit, ce sont ses paroles. Est-ce que toi, tu l'as senti serein et en paix avec sa décision? Je veux dire, moi, je me mets à sa place si, parce que lui, il a encore vraiment, en tout cas, il a l'air d'avoir l'impression qu'il n'y a rien à se reprocher, ou à peu près, je me mets à sa place, on dirait que j'aurais de la misère à être en paix.
Ben, oui, puis je pense que c'est le genre d'événement qui prend du temps à digérer. Évidemment, lui, il s'imaginait être chef du Parti libéral, évidemment, tous les prochains mois, mener une campagne électorale et peut-être devenir premier ministre. Puis là, écoute, quand je suis allé là au mois de janvier, évidemment, il n'y a plus de job, Pablo Rodriguez. Fait que là, il attend de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Mais oui, il avait l'air relativement serein, mais tu sais, je pense qu'au fin fond de lui-même, il y a un sentiment d'une forme d'injustice peut-être qui perdure. Et là, tu mets le doigt dessus, parce que dans sa perception à lui, il n'a rien fait de mal, il n'a rien vu de croche autour de sa campagne à la chefferie. Alors, évidemment, tu additionnes les différentes révélations, les différentes rumeurs, puis si tu en arrives à la conclusion que c'est pas de sa faute, en tout cas, c'est sa conclusion à lui, un peu fâchant et frustrant de se retrouver obligé, forcé à démissionner. Sauf que on aura peut-être le fin mot de l'histoire un peu plus précisément avec les différentes enquêtes qui s'en viennent. On sait que les libéraux en ont commandé une à un ancien juge. Ça devrait être dans quelques jours. Il y a l'UPAC qui s'enquête. Il y a Élections Québec qui s'intéressait à certains dossiers. Il y a la commissaire à l'éthique qui s'intéressait à une députée impliquée dans la campagne. Mais à travers ces conclusions, les différentes conclusions qu'on aura, on pourra peut-être juger un peu mieux du rôle de tout un chacun, parce que c'est évident que c'est un dossier qui demeure encore flou à plusieurs égards. C'est-à-dire qu'il y a comme plein d'histoires qu'on a de la difficulté à raccorder ensemble. Mais pour Pablo Rodriguez, c'est vrai que l'impact, lui, il est très concret, puis il est très brutal quand même, celui d'avoir démissionné.
Est-ce que tu l'as abordé, ça, avec Pablo Rodriguez, la venue éventuelle des résultats des différentes enquêtes? C'est-tu quelque chose qui a... Tu sais, y a-tu hâte que ça sorte pour pouvoir... pour que ça prouve, en quelque sorte, son innocence, ou tu sens quand même qu'il redoute un peu?
Non, moi, j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment hâte parce que, puis encore là, on verra s'il disait vrai ou s'il voyait juste, mais lui dit, il est convaincu, en fait, que les enquêtes vont le blanchir et que, surtout, il y a eu plusieurs exagérations. Tu parlais de perception tout à l'heure, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments dans le dossier, comme l'affaire des prête-noms, là, qui a été le dernier point. Ça, c'est clair, c'est illégal, c'est pas lui qui est impliqué, mais bon, ça s'est fait dans sa campagne et ça, c'est l'élément peut-être le plus clair. Mais il y a d'autres éléments qui sont davantage des questions de perception. Je te donne l'exemple de on lui a reproché d'avoir loué un local dans un immeuble qui appartient à sa femme, donc elle a touché le loyer, si vous voulez, puis ça, c'est tout à fait légal selon Élections Québec, sauf que il y avait effectivement un enjeu de perception. Il y a eu la question des indemnités. Lui, quand il était à Ottawa, il a démissionné comme ministre, ben, il pouvait, selon les règles là-bas, donner des indemnités, des primes de départ, dans le fond, à ses employés. Il y a une trentaine de personnes qui travaillaient avec lui, parce que tous ces gens-là perdaient leur job aussi. Mais l'affaire, c'est que certaines de ces personnes-là sont venues travailler pour lui dans la campagne comme bénévoles, mais là, il y a des militants qui ont dit, attendez, là, ils sont bénévoles, mais ils ont reçu un gros montant d'argent avant de faire le saut. Mais ça aussi, c'est des perceptions. C'est-à-dire que sur le fond, il n'y a pas d'enjeu de légalité à travers ça. Fait que c'est sûr que Pablo Rodriguez, je pense, ça contribue aussi à cette impression d'injustice d'une certaine façon. C'est qu'il dit, écoute, on a fait les choses selon les règles de l'art, c'est sa prétention. Et je me retrouve quand même dans cette situation-là. Mais là, ce sera de faire, effectivement, par les enquêtes et les conclusions des enquêtes, l'addition de tout ça, puis de voir, effectivement, est-ce que lui était vraiment périphérique aux différentes affaires. Est-ce que les différentes histoires s'avèrent aussi, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs là-dedans, puis les textos, par exemple, qui ont mis la crise, là, qui ont animé la crise au début, là, cette idée que, bon, des gens auraient été payés avec des brownies, des billets de 100$ pour voter pour Rodriguez. Ben ça, on attend toujours de savoir est-ce que c'est des vrais textos, est-ce que ça s'est vraiment passé. Et ces éléments-là vont quand même, je pense, être très importants pour lui, puis aussi pour nous, pour la compréhension générale de ce dossier-là.
Et est-ce qu'il semble regretter de s'être accroché aussi longtemps, Pablo Rodriguez? Je le disais d'entrée de jeu, j'ai l'impression que tout au long du mois de décembre, puis même peut-être un peu avant, on se disait, voyons, c'est sûr qu'il va devoir finir par partir, mais qu'il y ait quelque chose à se reprocher ou pas, on est rendu à un point de non-retour. Puis pourtant, il s'accrochait jusqu'au moment de sa démission. Est-ce qu'il y a un certain regret ou lui, ben il pensait tellement que la chose à faire, c'était de rester puis qu'il allait passer à travers, qu'il n'y a pas de regret?
Non, j'ai pas senti de regret là-dessus. Peut-être même plutôt le regret, c'est d'avoir dû démissionner parce que lui, jusqu'à la veille de sa démission, ou disons l'avant-veille, il était sûr qu'il allait passer à travers et que ce serait cette crise-là une espèce de un élément de plus dans son parcours qui n'a pas toujours été facile politiquement parce que, puis je refais ça à travers le texte aussi, mais tu sais, c'est quelqu'un qui est arrivé au Québec comme réfugié politique. Ses parents étaient réfugiés politiques. Il a appris le français à l'âge de 7-8 ans. Donc, il a fait son chemin au Québec comme ça. En politique, il a vraiment fait toutes les étapes avant même d'être élu député. Après ça, il y a eu une grosse défaite en 2011, là, quand il y a eu la vague orange, il a perdu son poste. Après ça, en 2015, il avait beaucoup travaillé pour aider Justin Trudeau dans sa campagne. Il était sûr qu'il allait être nommé ministre. Il n'a pas été nommé ministre. Donc, des coups durs comme ça, il y en a eu à quelques moments. Puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui, en gros, quand ça arrivait, se roule les manches, se relevait et arrivait à une autre étape. Fait que c'est ça, je pense, qu'il avait en tête dans cette idée de s'accrocher. C'est-à-dire que il a dit à un moment donné, je suis un fighter, un capitaine, ça abandonne pas le navire. Il y avait ça dans sa tête, mais là, c'est ça, c'est devenu beaucoup trop controversé et compliqué de se dépatouiller avec tout ça. Mais lui, je pense que vraiment, là, jusqu'à la toute fin, il aurait voulu continuer puis prouver qu'il était capable de mener le parti à la victoire, mais là, des fois, entre les envies et la réalité, il y a une petite marge.
À lire dans l'actualité dès maintenant en numérique, dans quelques jours en papier, Pablo Rodriguez, l'ascension et la chute, récit du déraillement spectaculaire de celui qui se dit victime d'un putsch. Guillaume Bourgault-Côté, chef du bureau politique du magazine L'Actualité. Un gros merci pour ton temps ce matin.
Merci Maxime, salut bien.
Le point de Max, l'actu du jour avec une touche de la bouche.
Ces jours de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. On parlait dans les dernières minutes de la saga Pablo Rodriguez, qui veut pas continuer de faire du bruit, même plusieurs semaines après sa démission. Et là, ben aujourd'hui, c'est le retour aussi à l'Assemblée nationale pour Marois Risky. Hier, on a su un petit peu plus davantage ce qu'elle reprochait, avec plus de détails à Geneviève Hinze concernant son congédiement. On va aller à l'Assemblée nationale, le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, en point de presse.
Que M. Drainville, alors est-ce que Mme Fréchette pourrait devenir éventuellement l'ennemi public numéro un pour le pays?
Je sais que je suis l'ennemi public de certains, mais moi, je n'ai pas d'ennemi public. Et j'ai été constant. Je les ai toujours répondu. On fait de la politique en fonction de ce qu'on pense. Et l'intérêt public, la meilleure politique publique, on s'adresse à l'intelligence des gens. On ne changera pas, je vous l'ai dit là, tellement de fois, on ne changera pas au gré de toutes sortes d'aléas. On va simplement présenter aux Québécoises et aux Québécois la meilleure équipe possible, puis les solutions les plus solides, les plus réfléchies possibles, dans le cadre d'une campagne électorale qui arrive rapidement, là. Donc, je pense qu'on a été constant là-dessus.
Que pensez-vous du fait que les libéraux, selon la version de Mme Risky, voulaient embaucher du monde pour répondre à votre livre bleu?
Je pense qu'il faut préciser quelques principes ici. Moi, si le Parti libéral du Québec, dans le cadre de ses travaux parlementaires, veut se consacrer à des idées et des politiques publiques, il n'y a pas de faute ni de problème là-dedans. À preuve, si vous allez voir le budget de l'an 1 du Parti québécois et notre politique, notre réponse à l'initiative du siècle, notre politique en immigration, ce sont des documents de l'Assemblée nationale. Rappelons que l'Assemblée nationale, c'est un lieu pour débattre d'idées et réfléchir. C'est ça, la démocratie. Le problème avec ce qu'on apprend ce matin, c'était la volonté de contrer le Parti québécois à travers des postes fictifs. Ça, c'est malhonnête et c'est un problème d'éthique. Et c'est pas nouveau dans l'histoire récente du Parti libéral du Québec, comme son histoire lointaine. Donc, c'est ça, à mon avis, qui est l'enjeu, de même que plusieurs autres révélations où, et là, ça, c'est noir ou blanc, là, les fonds publics ne devraient jamais servir à des campagnes électorales. En plus, de l'argent comptant qui circule au su et vu de tout le monde, puis personne ne réagit en temps utile. Ça, ce sont des vraies questions sérieuses. Mais si le Parti libéral veut émettre des documents d'idées à l'Assemblée nationale pour nous contredire, ils sont bienvenus. C'est ça, la démocratie. Puis on attend leurs documents avec impatience.
Qu'est-ce que vous répondez au propos de M. Duhaime en fin de semaine qui dit que vous faites preuve d'un manque d'humilité, d'une arrogance parce que vous vous présentez comme le gouvernement de remplacement puis vous lancez une campagne référendaire dès maintenant?
Je pense que ça fait plusieurs mois qu'on me colle toutes sortes d'épithètes. Ces épithètes-là sont nouveaux. Et je pense qu'il y a un prix que je suis prêt à accepter à être premier dans les sondages pendant plus de 2 ans maintenant. Ça vient avec beaucoup d'attention de mes adversaires. Et dans le cas d'Éric Duhaime, bien, personne ne sera surpris. Là. Ça reconfirme ce qu'on sait de lui. C'est-à-dire que c'est une politique très, très négative, presque exclusivement négative, combinée avec plusieurs mensonges. Rappelez-vous, dans Arthabaska, l'acharnement vis-à-vis Alex Boissonneau de la part d'Éric Duhaime, mais également le nombre de mensonges dans la campagne. On les avait documentés sur un site Internet. Il y en avait 32. Mais pas des vrais mensonges, même pas des débats d'idées ou d'opinions. Et donc, est-ce que je dois commenter à chaque fois? Je pense que ça définit davantage Éric Duhaime que ça définit le Parti québécois. Puis on continue.
Sur le PEC, est-ce que vous êtes plus Drainville ou Roberge? Est-ce que vous seriez plus enclin à des exceptions pour des gens, par exemple, qui sont au Québec depuis 2 ans puis qui œuvrent dans certains secteurs? Ouais.
Donc, on a déjà dit lors de notre caucus précessionnel qu'on était en effet ouvert à des clauses grand-père et des exceptions dans la mesure où on a déjà déclaré, il y a maintenant 1 an et demi, que notre plan d'immigration, c'était de cesser d'aller chercher à l'étranger et plutôt profiter du fait que des gens ont démontré sur le territoire québécois qu'ils sont déjà intégrés et qu'ils contribuent déjà comme travailleurs.
Donc, retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour les différents partis politiques. Vous entendiez Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui, selon les sondages, malgré une descente qui semble s'amorcer un petit peu, à date, c'est notre prochain premier ministre du Québec. Les choses peuvent beaucoup changer. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que le référendum va faire peur à assez de monde pour que ça change puis que le prochain premier ministre ne soit pas Paul Saint-Pierre Plamondon. On verra si j'ai tort ou si j'ai raison. On va peut-être aller faire une petite saucette un petit peu plus tard aussi dans le point de presse de Marc Tanguay, chef par intérim de l'opposition officielle du Parti libéral du Québec. Mon chef de Ragy, leader parlementaire, qui sera là aussi pour ce point de presse-là. Normalement, là, aux alentours de 11h30, 11h40, on devrait être en mesure d'aller entendre un petit peu là, les représentants du Parti libéral du Québec. Entre-temps, il y a aussi Ruba Gazal et Sol Zanetti de Québec solidaire qui vont s'entretenir avec les médias. Malheureusement, pour les... on est rendu à quoi? 6-7% de la population qui vote Québec solidaire et qui aurait aimé entendre ce qu'il avait à dire. Ça va être durant l'open mic. Donc, malheureusement, c'est Audrey Pinchot que vous allez entendre là, à la place de Ruba Gazal et de Sol Zanetti. Mais après ça, promis, j'essaie de vous faire entendre un petit peu Marc Tanguay et M. Dragy du Parti libéral du Québec. En attendant, ouais, il ne nous reste pas énormément de temps. On va aller faire un petit peu de sport. Tiens, le Canadien de Montréal qui était en action hier soir du côté du Minnesota. Ça fait à peu près 47 ans que le Canadien n'a pas été en mesure de gagner un match au Minnesota. Pour vous donner une idée, la dernière fois que c'est arrivé, P.K. Subban avait scoré un tour du chapeau. Et Bayard, défaite de 4-3. Fait que au moins, c'est un point récolté dans la défaite en prolongation. C'est Kirill Kaprizov qui a scoré son deuxième du match pour donner la victoire au Wild en avantage numérique en prolongation. Martin Saint-Louis, d'ailleurs, qui n'était pas super content là, du travail des officiels, l'a mentionné. Ça a-tu été assez clair pour qu'il reçoive une amende de la LNH? Je ne pense pas, mais on a compris ce qu'il voulait dire, entre autres, sur le but gagnant. Là. Il y avait de l'obstruction à l'endroit de Nick Suzuki, puis ça n'a pas été appelé. Mais bref, le Canadien qui va reprendre l'action demain du côté de Winnipeg. Dernier match avant les Olympiques. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire devant le filet. Est-ce qu'on va revenir avec Jakub Dobesch malgré un genre de contre-performance hier ou on va y aller avec Sam Montembeau, même si chaque match de Montembeau à peu près est une contre-performance à suivre? Dans les prochaines minutes, Audrey Pinchot est là pour l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max.